Radio Campus Lille, 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rappeler. Les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Vous savez pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus patrons,
je... Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, je vais tomber en panne de pause. Je dis tant que je ne connais pas.
Aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025, c'est la Saint Rising Lion. Saint Rising Lion, ou Saint Lion s'éveillant, ou Saint Lion dressé, est le saint patron du nouveau petit nom poétique que l'État génocidaire israélien a donné à son agression préventive en Iran, parce qu'Israël a le droit de se défendre. Et même de se défendre avant qu'on attaque. C'est parce qu'on peut être un criminel contre l'humanité et conserver son âme de poète que Saint Rising Lion a été canonisé. Parce qu'il aime la poésie, les images et les figures de style, le colon sioniste génocidaire. D'où la métaphore biblique tirée du livre des Nombres, le quatrième livre de l'Ancien Testament. Le peuple s'élèvera comme un grand lion et il se dressera comme un jeune lion. Il ne reposera pas avant d'avoir dévoré la proie et bu le sang des morts. Eh, hey, quand même, ça a plus de gueule que... Bah merde, même nos plus ardents défenseurs commencent à se dire qu'on exagère un peu à Gaza. Vite, une autre cible, arabe si possible. Là, les mots là de Téhéran, feu à volonté! Ce qui est quand même une grave erreur. Les Iraniens, c'est des Perses, et les Perses, bah, c'est pas des Arabes. Ah, la poésie. Une des figures de style préférées des assassins israéliens, c'est d'abord l'anaphore. L'anaphore, ça consiste à répéter des termes en début de vers. Opération Barak, opération Kadesh, opération Focus, opération Gift, opération Litanie. Bon, ça rime pas beaucoup. Opération Opéra, là on cumule anaphore et assonance, mais juste pour 11 morts. Opération Mole Cricket, Opération Jambe de bois, Opération Raisin de la colère, Opération Rempart, Opération Arc-en-ciel, Opération Pluie d'été, Opération Plomb durci, Opération Vent du ciel, Opération Colonne de nuée, Opération Bordure protectrice, Opération Château de cartes, Opération Bras tendu. Ah oui, ça existe. Hein. Ce qui est quand même un choix malheureux, mais qui colle pas mal à la méthode israélienne d'éradication de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Palestinien. Ou à un Yéménite. Ou à un Libanais. Ou à un Iranien. Ou à un Syrien. Non, plus maintenant la Syrie. La Syrie, maintenant, c'est un pays ami grâce à Joulani. En tout cas, maintenant, c'est opération Rising Lion. Tout de suite après l'anaphore, qui a tout de même fait plusieurs centaines de milliers de morts depuis 1948, et putain, c'est dangereux la poésie quand t'es palestinien. L'autre figure de style préférée d'Israël, c'est l'euphémisme, l'adoucissement, des frappes, des ripostes, le droit de se défendre, les incursions, la réplique, les représailles, les bombardements, mais de haute précision. La force de défense d'Israël. Ah, ça sonne quand même mieux à l'oreille que crime de guerre, violation du droit international, occupation, meurtre de prisonniers de guerre, ou de combattants, même de ceux qui se sont rendus. Ciblage intentionnel de civils, même personnel médical ou journaliste. Châtiment collectif, famine, persécution, violence sexuelle, viol, torture, pillage, déplacement forcé de population, disparition, incitation au génocide, génocide. Mais, à la fin, quand même, la figure de style préférée des sionistes, ça reste l'oxymore. Démocratie israélienne. Ça claque quand même, hein ? Et le pire, c'est qu'il n'y a que le gros con d'occidental qui y croit. Et gros con d'occidental, ça, c'est un pléonasme. Aujourd'hui, mercredi 18 juin, le soleil s'est levé, il y a des couillonnes qui parlent d'extradition, il va se coucher, oui, mais question tutu tintin, une voix derrière lui fait ratatatatatata. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, campusil.com et le DAB+.
سفينة سفينة والله ما تمشي سفينة تمويهاكم كاشفينة إما تجنب رهينة أو نقلع أم الماكينة ونحاصر ابن اللعينة بيدن على بنيامينة يلعن أبو والدينا
سفينة سفينة اليمني كسف السفينة راس الراجا في يمينة والهندي ومحاصرينة
والبهر الأهمر في كمينة
والأبيض طايح بيدينة
والأسود
بكرة جايينة بنيامين نقبر مين المتورطين ومحاصرين
يو بايدن الو هات الصولين والغرب فين
فين امريكا وبريطانيا والدنمارك فرنسا المانيا انا مشغول عبادة ومش قادر اهدع ولا ثانية
هاتوا الناتو الغربي خليكوا جنبي جنبي انا لليمن مش ناكس غزة
بمك يا ابن الخراطة موسادك بانت خباطة تبنى علشانت فرقاتها والقوة اليمن يجبتها ضربتها ضربتها
ضربة يخرب بيتها
نهرب فين جينا يمين جينا يسار وصابتها
ملي 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 مليار
لصاروخ بالفين دولار
يا خسارة كل غارة واقتصادنا بدا ينهار
وانا 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 وانتو
تحيين ولا جننتو
انتو ما اياك انتو
مجرم حربنا وانتو
وان تو وان تو وان تو
مجرم حربنا وانتو
كنا نحشش من تحشيشك جيشك جيشنا وجيشنا جيشك ولينا تفرشنا في البحر في غزاين تفريشك
فاينال هلفا الكذبي فاينال اسطول الهلفا
سافينا سافينا والله ما تمشي سافينا نعجن أبوها عاجينا وحلفاكم داعزينا لا كلب يرفع جابينا واللي مصمم نهينا مع الذي بايعينا نلعن أبو والدينا
سافينا سافينا ما بك اليمني سافينا ومن هرب لحكينا ومن قرب خطفينا وسطولنا ضربينا وحصرهم فرضينا من وين نعبر منينا وينا 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 وينا
Et c'est bien l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis, à cette heure-ci, ou à peu près. Et j'espère que vous avez apprécié cette délicieuse chanson yéménite Houthi. Ce soir, on vous propose d'écouter deux interviews réalisées par notre camarade Michel Collomb du site Investigation. C'est son nouveau format forum, donc une interview de certaines personnalités. Vous pourrez entendre Victor Dédage à propos des dessous de la libération de Julian Assange, Wikileaks, ça vous dit quelque chose? Mais juste avant, donc c'est-à-dire maintenant, ouais, quasiment maintenant. Donc, l'interview de Michel Collomb, enfin l'interview de Saïd Bamama, notre camarade Saïd Bamama, par Michel Collomb. Pourquoi l'Occident a créé Israël? C'est très exactement l'heure de le mettre.
Un quart d'heure en Palestine.
Bienvenue pour la première de Forum, l'émission qui va, derrière les images officielles de l'Europe, montrer sa réalité avec des invités de l'Europe, des pays du Sud. Et le tout premier, c'est Saïd Bouamama. Bonjour Saïd.
Bonjour.
Tu es né en France, à Roubaix, en 1958. Tu as gardé la nationalité algérienne, tu es sociologue, éducateur de terrain, auteur de toute une série de livres passionnants, dont le dernier Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. Pourquoi manuel et pourquoi stratégique?
Alors le terme manuel, c'est tout simplement parce que le compte-rendu médiatique des événements internationaux aujourd'hui ne permet pas aux citoyens de comprendre la réalité. Et qu'il me semblait que les enjeux étaient tellement importants sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur celui-là, la Palestine et le Moyen-Orient, qu'il fallait recontextualiser, donner les fondamentaux, donner les éléments de base qui permettent aux citoyens de se faire un point de vue raisonné, un point de vue objectivé, afin qu'ils sachent comment se positionner par rapport à ce conflit qui est dramatique aujourd'hui.
C'est un conflit que tout le monde vit douloureusement. Il y a ce sentiment qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, ou en tout cas comment ça se fait que ça ne se résout pas. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de frustration, de haine aussi. Est-ce que c'est possible d'en sortir ?
Absolument. Sans avoir les données de base, sans avoir les éléments historiques, sans avoir les enjeux stratégique et économique, on ne peut qu'en rester à l'émotionnel. L'émotionnel est bien entendu nécessaire, mais si on en reste à cela, on ne peut pas comprendre les véritables enjeux et donc les priorités qui se posent pour aboutir un jour à une solution dans cette région qui soit une solution juste. Et c'est pour cela que c'est essentiel que les citoyens du monde se rendent compte qu'il y a des intérêts énormes dans cette région qui explique pourquoi nous en arrivons à un génocide télévisé, le premier génocide de l'histoire de l'humanité en télévisé.
C'est un conflit qui dure depuis 75 ans. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il n'y a pas de solution et en même temps, il y a une violence sans précédent. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de solution?
Ce qui explique qu'il n'y a pas de solution, sur le court terme en tout cas, c'est la dimension stratégique de la région. Cette région est une région particulière. Elle se situe à l'intersection de trois continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et cette situation géographique a fait de la région, de tout temps un enjeu pour le contrôle, pour ceux qui voulaient dominer le monde. Aujourd'hui, ceux qui prétendent à une hégémonie sur le monde ont besoin de contrôler cette région, et c'était déjà le cas dans le passé. Beaucoup de nos concitoyens, en Europe en tout cas, ont pu apprendre dans les manuels scolaires les croisades, et ils ont pu croire que les motifs religieux des croisades étaient les motifs essentiels. Il suffit de regarder les routes commerciales de l'époque pour s'apercevoir que déjà la région était un nœud stratégique, et sans doute le nœud stratégique principal de l'équilibre du monde. Et
c'est, les routes commerciales vers où ?
Alors, comme on est à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, c'est effectivement ce qui permet d'aller vers ce qui était le cœur industriel du monde, qui était l'Europe. Et donc le contrôle entre les sources de matières premières qui venaient d'Asie et d'Afrique et l'Europe était une dimension essentielle. Et c'est pour ça que cette région est un nœud stratégique essentiel.
C'est un genre de crime géographique.
Absolument, absolument, c'est un crime géographique. Et les Palestiniens, comme les peuples arabes du Moyen-Orient, souffrent du fait qu'ils sont dans un endroit où se joue l'équilibre du monde.
Est-ce qu'il y avait aussi un enjeu par rapport à la nation arabe ? C'est quand même une nation qui s'étend très loin, de Maroc, Algérie, jusque l'Égypte et puis tout le Moyen-Orient. C'est aussi un enjeu ?
Alors, pour comprendre pourquoi la question de la nation arabe est une question qui a été essentielle pour déterminer les politiques des grandes puissances dans la région, il faut aussi avoir en tête que cette place stratégique commerciale va faire que la première puissance coloniale de l'époque, au début du colonialisme qui a été l'Angleterre, que cette première puissance coloniale avait besoin de contrôler cette région parce qu'elle était tout simplement un point de passage incontournable sur la route des Indes. Et rappelons que l'occupation de l'Inde par la Grande-Bretagne est l'explication du boom industriel anglais qui va faire de l'Angleterre la puissance hégémonique pendant près d'un siècle et demi. Et donc, l'Angleterre avait besoin de contrôler cela. Et pour contrôler cela, il fallait éviter ce qui émerge à l'époque dans beaucoup d'endroits du monde, qui est l'accélération du processus de construction nationale. Partout où les peuples ont été colonisés, des prises de conscience se réalisent, des volontés d'affirmation nationale et de libération nationale se mettent en place. Et au Moyen-Orient, la nation arabe commence à s'affirmer et à vouloir une existence en tant qu'État uni. Et donc on a une volonté d'unification de tous les peuples arabes qui se met en place. Or, si l'on regarde où se situe la Palestine, elle se situe en plein centre du monde arabe, c'est-à-dire que l'existence d'un État qui va être l'État sioniste en lien avec l'Occident empêche cette nation arabe de se constituer. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'existence d'Israël a empêché le processus de construction nationale arabe d'aboutir à la constitution d'un État-nation unique et divers, mais unique également.
Donc, diviser les Arabes, est-ce que on associe beaucoup le Moyen-Orient au pétrole, plus tard au gaz ? Est-ce que ça a commencé avant ou est-ce que c'est déjà un facteur en plus
Ça a commencé avant. Les premiers, c'est la Première Guerre mondiale, en gros, qui va montrer le caractère stratégique de l'énergie pétrolière. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, en réalité, le monde va aller vers la course au pétrole. Donc, mais le mouvement sioniste a déjà des soutiens auparavant. C'est donc bien avant, c'est bien cette dimension stratégique de la route, hein, cet endroit de passage qu'est le Moyen-Orient, qui fait sa dimension stratégique. Se surajoutent à cela les préoccupations politiques pour éviter l'émergence d'une nation arabe, et se surajoute à cela la découverte du pétrole qui va venir encore renforcer la place de cette région. On le voit, ces trois facteurs font de cette région un cas quasi unique sur l'ensemble de la planète. D'autres régions de la planète sont stratégiques, mais celle-là revêt une place prédominante.
Bon, tu as parlé de la Grande-Bretagne, de l'Inde, mais ça, c'est un peu de l'histoire ancienne. Au niveau des routes commerciales, c'est quand même les États-Unis maintenant qui dominent le monde. Et eux, ils sont aussi dans cette position-là ?
Absolument. Il suffit d'avoir en tête que la région est un point de passage stratégique pour les nouvelles routes le grand projet de nouvelles routes de la soie chinoise, qui sont un vaste projet d'infrastructure terrestre, aérienne, informatique, etc. Et cette région est un point de passage, encore une fois, pour les mêmes raisons, à l'intersection de trois continents, pour les mêmes raisons. Et bien entendu, les États-Unis, qui aujourd'hui ont officiellement comme stratégie de contrecarrer le développement de la Chine, de contrecarrer le fait que la Chine tisse des liens commerciaux avec de très nombreux pays du monde, comme c'est la stratégie officielle des États-Unis, le contrôle de cette région est encore aujourd'hui, pour les mêmes raisons qu'hier, même si c'est avec des technologies plus contemporaines, une priorité pour les États-Unis.
On a souvent présenté la création d'Israël comme la volonté des Juifs ou de certains Juifs, les sionistes. Et donc, c'est le facteur important ou c'est un facteur secondaire ?
Le mouvement sioniste, lorsqu'il apparaît, est un mouvement politique en réaction au pogrom européen. Il est extrêmement minoritaire, il est même entièrement marginal. Les premières initiatives que prend le mouvement sioniste pour mobiliser la communauté juive sont un échec complet. On a les deux premiers appels à fonds juifs pour acheter des terres en Palestine qui débouchent sur des sommes extrêmement ridicules. Autrement dit, les juifs européens ne se sentent pas dans un intérêt d'aller quitter leur pays, quitter le pays de leurs ancêtres pour aller habiter en Palestine. C'est un échec complet. Ça aurait pu rester un projet marginal de quelques uluberlus pendant longtemps si cela n'avait pas rencontré les intérêts d'une grande puissance. D'ailleurs, le mouvement sioniste le théorise dès le premier congrès sioniste mondial dans lequel il est indiqué que les chances de succès supposent de trouver un parrain impérialiste, une grande puissance qui vienne parrainer la création d'un État artificiel dans la région.
Et qui ils ont été chercher ?
Alors, ils sont partis voir l'ensemble des grandes puissances de l'époque. On va donc voir le Kaiser allemand en lui proposant de devenir un État vassal de l'Empire allemand. Mais le Kaiser est en lien d'alliance avec l'Empire ottoman, dans laquelle se situe la Palestine. Et donc, il leur dit « je ne peux pas ». Puisque mon allié, c'est le sultan ottoman. On va voir l'Angleterre qui, dans un premier temps, leur répond exactement la même chose en disant « mais moi, je ne veux pas me mettre à dos l'Empire ottoman ». On va même voir le tsar de Russie, qui est un tsar antisémite, ouvertement antisémite. On a là une alliance du sionisme et de l'antisémitisme. On a des preuves écrites qui sont mentionnées dans le manuel stratégique de l'Afrique où le ministre de l'Intérieur, qui a été un organisateur de pogroms, reconnaît le mouvement sioniste et dit l'appuyer, mais dit qu'il ne peut pas, pour les mêmes raisons, l'alliance avec l'Empire ottoman. Donc pendant tout un temps, on va avoir des démarches du mouvement sioniste pour obtenir un parrain. Il va falloir attendre la Première Guerre mondiale et en particulier la défaite des Dardanelles, c'est-à-dire les Anglo-Français commencent la guerre par une grande défaite, une énorme défaite qui aurait pu changer le cours de la guerre. Et leur stratégie, ça va être d'essayer d'obtenir l'entrée en guerre des États-Unis. Et or, le mouvement sioniste est présent fortement dans un seul pays, qui sont les États-Unis. Et donc, le mouvement sioniste va être un acteur premier de l'entrée en guerre des États-Unis en faisant agir tous les réseaux, tous les soutiens qu'ils ont au sein du département du gouvernement états-unien, et ils vont finir par jouer un rôle important dans l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que, pour obtenir cette mobilisation du mouvement sioniste états-unien, eh bien, on va avoir les deux déclarations qui montrent l'enjeu international de la Palestine. La déclaration Balfour, qui promet aux sionistes la création d'un foyer national juif en Palestine, autrement dit d'un État palestinien. Hein, on a choisi des mots pour masquer l'enjeu, mais c'est en réalité un État juif en Palestine. Et la déclaration Combon, ce qui montre que toutes les puissances impérialistes étaient intéressées. Combon est un représentant du ministère des Affaires étrangères français. Alors, donc, ce n'est pas que la Grande-Bretagne qui reconnaît exactement, qui fait exactement les mêmes promesses que Balfour, la création d'un État juif artificiel dans la région.
Balfour est hyper connu, mais qu'il y avait une déclaration française semblable, ça, c'est pas connu. Ça explique qu'en fait, c'est une logique coloniale générale ?
Absolument, et ça explique aussi que ce qu'il y a derrière, ça n'est pas un philosémitisme, l'amour des Juifs, ça n'est pas ça qu'il y avait derrière les positions de la France et de la Grande-Bretagne. C'est bien des intérêts économiques, des intérêts stratégiques qui ont guidé le soutien au mouvement sioniste. Voilà. De la même façon que ça n'est pas simplement par refus de l'antisémitisme que le mouvement sioniste se développe, c'est aussi dans le cadre de, d'un service offert à un certain nombre de grandes puissances.
Cette histoire-là, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté à l'école. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est Israël est né parce qu'Hitler avait massacré les Juifs, donc il fallait qu'ils aient un refuge.
Eh bien, c'est un, ça s'appelle un mensonge historique, ça s'appelle un roman de justification, un roman de légitimation. Il suffit d'aller plonger dans les débats du mouvement sioniste antérieur à la Shoah pour s'apercevoir que les dés sont déjà joués avant et que dès le mandat britannique, on a la volonté de rendre majoritaire la population juive en Palestine pour déboucher sur un État majoritairement juif en Palestine.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Quelle était l'attitude des dirigeants sionistes dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale aussi par rapport au nazisme? C'était quand même un ennemi, un danger qui unissait presque toute l'humanité. On a vu l'URSS communiste, les États-Unis capitalistes finalement se tourner contre Hitler, contre le nazisme. Et les dirigeants sionistes aussi ?
Alors, il faut distinguer les dirigeants de la communauté juive et les dirigeants sionistes. Du côté de la communauté juive, la réaction est immédiate. Dès les premiers actes antisémites de l'État nazi, il y a un appel au boycott des produits allemands qui est lancé. Cet appel au boycott commence à avoir des effets extrêmement importants. Un peu comme le boycott en Afrique du Sud, qui a affaibli l'apartheid, et comme l'appel au boycott en Palestine aujourd'hui pour affaiblir l'État d'Israël. Eh bien, ça marche. Les exportations allemandes diminuent et ils sont extrêmement inquiets sur leur capacité de tenir pour mener la guerre qu'ils prévoient. Et là, le mouvement sioniste va entrer en jeu et on va avoir des accords entre le nazisme et le sionisme pour obtenir le droit à l'immigration sous parrainage du mouvement sioniste pour les juifs aisés d'Allemagne. Des accords vont être signés. Dans le livre, tout un chapitre est consacré à ces accords entre le mouvement sionisme et le nazi, sous la forme suivante. Autorisation des juifs qui ont un certain capital d'immigrer vers la Palestine, simplement leur fortune est bloquée sur un compte et ils ne peuvent le débloquer qu'en achetant des produits allemands. Le mouvement sioniste va donc contribuer à sauver le nazisme d'un boycott qui avait été appelé par les communautés juives du monde entier.
Et quelle était la position de Ben-Gourion, qui va devenir le premier ministre d'Israël et qui a joué un rôle très très important dans les années 30 et 40, c'est un peu le leader du sionisme. Quelle était sa position sur cette question d'Hitler ?
Mais sa position est très simple. C'est une position qui est une position utilitariste. Utiliser, comme d'ailleurs dans toute l'histoire du mouvement sioniste, utiliser toutes les possibilités pour favoriser la création de l'État d'Israël et l'immigration juive en Palestine, quelle que soit la nature, y compris, par exemple, s'opposer au recueil des orphelins juifs qui fuyaient, qu'on pouvait faire fuir vers l'Angleterre. Et on a des déclarations à ce moment-là, et de Ben-Gourion et d'autres, disant qu'il vaut mieux perdre des enfants juifs plutôt que de diminuer l'attrait vers la Palestine comme lieu de refuge.
C'est donc pas un but humanitaire.
C'est... Absolument, c'est juste de l'utilitarisme complètement inhumain.
En 1947, l'ONU va accorder une partie de la Palestine aux sionistes juifs. C'est l'ONU, donc est-ce qu'on peut dire que le droit a consacré l'existence d'Israël ?
D'abord, il faut, à chaque fois qu'on parle de droit international et des organismes internationaux, toujours les resituer historiquement. De la même façon que lorsque la Société des Nations donne un mandat britannique et introduit la déclaration Balfour dans le mandat britannique pour gérer la Palestine, qui dirige la SDN ? Les pays sont colonies, la plupart, tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine sont, d'Afrique et d'Asie, pardon, sont encore colonisés. Eh bien, en 45, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'ONU en 1945 ? Ça n'est pas l'ONU d'aujourd'hui. L'ONU en 1945, ce sont les grandes puissances, puisque les autres pays sont colonisés. Et donc, c'est cette ONU-là, regroupant essentiellement les grandes puissances, qui décide le plan de partage. Mais même avec cette composition, le plan de partage commence à l'ONU d'abord par être rejeté. La majorité des États, une faible majorité d'États, reste pour une Palestine unique. Entre deux votes, on va avoir le changement de position d'une dizaine de pays. Lorsque l'on regarde ces pays, on s'aperçoit qu'en l'espace d'une quinzaine de jours, les États-Unis ont fait pression sur des micro-États dépendants économiquement, dépendants militairement de Washington pour obtenir un changement de position. Des gens qui avaient voté contre la partition deviennent brusquement pour la partition. Donc d'une part, l'ONU n'est pas représentative à l'époque et d'autre part, il y a eu en plus instrumentalisation et manœuvre des États-Unis.
Et en 1948, Israël va prendre beaucoup plus de territoire que ce qu'on lui avait donné. Et ça se passe comment ?
Ah ben, tout simplement, c'est là qu'on s'aperçoit que le plan était bien un plan de violence sur le peuple palestinien, puisqu'on va avoir une politique qui est une politique de terreur, ce qu'on va appeler la Nakba, dans laquelle on va refouler les Palestiniens en dehors de Palestine. C'est une vraie catastrophe au sens où ce sont des centaines de milliers de Palestiniens qui sont obligés de quitter leur terre, bien au-delà de la superficie qui avait été octroyée par les Nations Unies et sans aucune réaction sérieuse des Nations Unies.
Et au niveau arabe, quand va se développer la riposte et la résistance ?
Le monde arabe est un monde qu'il ne faut pas idéaliser en matière de solidarité avec la Palestine. Il est dirigé par des classes sociales, dans de nombreux pays, pas tous, mais dans de nombreux pays, par des classes sociales qui sont en lien avec les grandes puissances qui décident de créer l'État d'Israël. Et par conséquent, on va avoir des politiques ambiguës. Pour répondre aux volontés populaires de soutien à la Palestine, on a un discours sur la Palestine de soutien, mais dans les réalités, il y a très peu de mobilisation. Voire même, un certain nombre d'États arabes ont des vues sur la Palestine. Par exemple, la Jordanie entre en guerre à ce moment-là, mais avec l'idée, non pas de soutenir la création d'un État palestinien, mais de s'approprier la Cisjordanie. Et donc, on va avoir en réalité un monde arabe qui va se mobiliser à minima dans cette guerre. D'autant plus que le mouvement sioniste, lui, est préparé de longue date. Il a été armé en 1936 par la Grande-Bretagne avec des armes qui sont des armes modernes, puis qui se sont encore modernisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les milices sionistes ont été transformées en véritable armée de l'intérieur. Et lorsque éclate la guerre de 1948, on est loin du schéma, des Goliath contre le petit David. En réalité, les milices sionistes sont quantitativement et qualitativement au niveau des armes plus importantes que l'ensemble des armées arabes réunies. Cette image de milice nous trompe. En réalité, c'est une véritable armée qui a été constituée à l'ombre des Britanniques en Palestine.
Dans les décennies suivantes, si on regarde les cartes, on va voir que le territoire d'Israël ne cesse de s'agrandir en 67, puis encore après.
Absolument, mais cela n'a rien d'étonnant. Le mouvement sioniste, par définition, est une colonisation de peuplement. Dans le livre, je donne de multiples citations des congrès sionistes mondiaux dans lesquels on s'aperçoit que l'objectif est bien de peupler l'ensemble de la Palestine et d'éliminer le peuple palestinien. Alors certains parlent de l'éliminer physiquement, d'autres parlent de l'éliminer en le déportant, mais l'idée d'un départ de l'ensemble du peuple palestinien est présente de manière transversale à toute l'histoire
du mouvement sioniste. Mais Israël dit toujours que ce sont des réactions à des agressions des Palestiniens.
Ça, c'est la distinction entre prétexte et cause. Effectivement, dire que c'est en réaction à un acte palestinien, cela s'appelle un prétexte. La véritable cause, c'est la poursuite de ce que portent toutes les colonisations de peuplement, c'est-à-dire une tendance au génocide. Quand on veut remplacer un peuple, il n'y a pas 36 solutions. Cela débouche soit sur le génocide, soit sur la déportation, qui est en réalité une autre forme du génocide.
Finalement, il va y avoir quand même des négociations, il va y avoir des accords à Oslo. Certains pensent que c'était un espoir, une chance. C'était quoi Oslo ?
Oslo était un piège. Oslo était un piège que les Palestiniens ont été contraints d'accepter compte tenu de l'état du rapport de force à l'époque. Quel était le rapport de force à l'époque ? C'était un rapport de force d'isolement de la résistance palestinienne. Les Palestiniens avaient été massacrés en Jordanie et donc ne pouvaient plus résister à partir de la Jordanie. Ils avaient été éliminés du Liban par une intervention israélienne et pour sauver la population libanaise avait accepté de quitter le Liban vers l'Algérie, la Tunisie et d'autres états d'accueil. Et par conséquent, il n'y avait plus de possibilité de résistance de l'extérieur. Secondo, les États arabes de la région commençaient l'un après l'autre à reconnaître l'État d'Israël, c'est-à-dire à abandonner la Palestine. Donc les Palestiniens se retrouvaient dans une situation d'impasse et c'est ce qui les a amenés à signer Oslo. Mais ils ont signé Oslo dans l'idée que c'était une étape, une trêve avant de pouvoir rebondir et ce qui s'est mis en place à Oslo, ça a été tout simplement la mise en place d'une entité palestinienne Croupion qui était entièrement dépendante au niveau économique, au niveau militaire, au niveau des contrôles, au niveau de l'ensemble de la vie, était dépendante de l'État d'Israël qui était à côté. Une telle situation est bien entendu impossible. Elle signifie tout simplement soit que les Palestiniens acceptent de devenir un bantoustan, soit ils se révoltent. Ils se sont révoltés et ça a donné prétexte aujourd'hui à un génocide, le premier génocide télévisé.
Est-ce qu'on peut conclure avec la question de la résistance ? Il y a eu différentes époques, différents mouvements. Quelle a été l'attitude du peuple palestinien et de l'Occident par rapport à cette résistance ?
Le peuple palestinien a toujours été dans le soutien à sa résistance. En réalité, la résistance et le peuple palestinien ne peuvent pas être découplés. Comme dans toute l'histoire des luttes anticoloniales, c'est le peuple lui-même qui donne naissance à des mouvements de résistance. Les stratégies d'Israël ont toujours été de diviser le peuple palestinien de ses organisations de résistance. Et là, ça nous rappelle d'autres résistances, comme la résistance anti-nazie. Ici, en Europe, c'est les mêmes
schémas. C'est légitime en droit international d'employer la violence pour résister
au colonialisme. Le droit à la résistance à l'oppression est présent dans toutes les déclarations universelles, que ce soit la déclaration de 1789 à la déclaration de 1948, le droit et la jurisprudence internationale, la résistance à l'oppression est un droit inaliénable de l'homme, et jusqu'à
donc,
présent.
Et donc l'Occident qui traite les Palestiniens de terroristes, il se met à l'encontre du droit international ?
Absolument, absolument. Maintenant, le droit international, il est aussi l'objet d'interprétation de ce qui domine à un moment donné les organismes internationaux. Et donc, il y a un combat sur l'interprétation du droit. Mais si on regarde l'histoire de ce droit international, effectivement, le droit à la résistance fait partie des droits inaliénables de l'homme.
عسى بالجمال جال
Radio Campus.
J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris. Oui, oui. Comment ça, j'ai pas compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
106,6.
Bonjour pour cette émission de Forum. Aujourd'hui, nous invitons Victor Dédage, l'animateur du site Le Grand Soir et un homme à qui la liberté de l'information en France et dans le monde doit beaucoup, parce que c'est lui qui a organisé, animé, à lui tout seul, je dirais, une formidable campagne pour la libération de Julian Assange, campagne qui a porté ses fruits. Pourquoi? Comment? On va voir. Victor, bienvenue.
Merci.
Et justement, on va te demander d'abord, le jour où Julian Assange est enfin libéré, après des années de campagne, on n'y croyait pas beaucoup. Tu te sens comment?
D'abord, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas que moi qui ai mené le combat. J'étais probablement à l'initiative, ou un des premiers, non pas à m'engager dans la cause, mais à m'engager et à la fois à accepter de parler en public, ce qui m'a rendu plus visible que d'autres. Il faut saluer les petits soldats qui ont œuvré quand même beaucoup et étaient très dévoués à la cause.
C'est un très grand comité. En Belgique aussi, il y a eu un comité voilà. Free Assange qui faisait des belles actions dans la rue tous les lundis. Mais toi, tu as donné combien de conférences, d'exposés ?
Alors, j'ai passé 5 ans à temps plein à faire que ça. J'ai donné entre 250 et 300 conférences à travers la Belgique, le Luxembourg et la France. Majoritairement la France.
Une fameuse performance. Alors, tu te sens comment le jour où on te dit « il est libre » Il rentre
d'abord,
à la maison.
On ne me le dit pas. D'abord, je suis réveillé par un message que je reçois sur mon téléphone à 2h30 du matin. C'est un neveu qui habite à Melbourne, en Australie, qui m'envoie un message laconique qui dit « Il rentre en la maison, youpi !» Alors, première réaction, il s'est trompé de destinataire. Deuxième réaction, très rapide, je savais qu'il était intéressé à l'affaire Assange, qu'il militait lui-même d'ailleurs à Melbourne. Mais j'arrivais pas à, dans les brumes comme ça. Alors je vais sur le compte de Twitter X, de direct à la source. Effectivement, j'apprends qu'Assange est libre. Pour décrire la surprise, le niveau de surprise que nous avons tous eu, et nous tous voulons dire les gens de la solidarité, il faut raconter qu'une semaine à peine auparavant, nous étions encore dans une réunion vidéo web conférence de tous les comités à travers l'Europe, engagés dans des discussions avec nos partenaires américains, dans l'hypothèse que nous avions tous qu'il allait bientôt être extradé et qu'il fallait transmettre le témoin aux Américains parce que bientôt, c'est eux qui allaient porter le poids de la campagne.
Il allait être extradé et il risquait très gros.
Et il risquait 175 ans de prison dans un trou noir dans les supermax américains. Lors de cette réunion qui s'est déroulée quelques jours avant l'annonce de sa libération, il y avait une personne qui avait été dévouée, nous avait été confiée, une assistante de Jeremy Corbyn, qui était affecté à temps plein pour coordonner la solidarité aux États-Unis, qui était en train de planifier son déménagement vers Washington. C'est quelqu'un donc qui était très proche de la solidarité avec Assange et qui semblait être, elle aussi, dans l'ignorance la plus totale. Donc quand je dis que ça nous est tombé sur le coin de la tête, ça nous est vraiment tombé sur le coin de la tête. Alors, réaction, la mienne, un mélange de joie, évidemment, et de perplexité. Je titre un peu dans l'humour, mais il y avait du vrai là-dedans. J'ai dit que j'ai fait une dépression postpartum. C'est la meilleure description que j'ai trouvée pour expliquer ce qui se passait.
C'était ton combat depuis 5 ans et tout d'un coup...
Et puis il y a cette sensation que quelque chose nous avait échappé. Et qui, d'ailleurs, je l'ai toujours, cette sensation qu'il y a quelque chose qui nous a échappé.
C'est pas clair, la libération ?
Écoute, je trouve que c'est pas clair. Il y a plusieurs aspects qui me troublent. D'abord, la vitesse avec laquelle ça s'est fait. Le scénario qu'on a reconstitué, c'est que l'accord a été signé un dimanche entre Julian Assange et le département de justice américain, que le lundi qui a suivi a été passé à trouver un transporteur privé, parce que l'accord stipulait qu'il devait être transporté par un avion privé et pas prendre un avion de ligne. Et mardi, il est sorti de la prison. Il a pris un avion privé, donc destination d'abord Bangkok pour une escale, et nous étions déjà des milliers à suivre le vol de l'avion sur les sites qui permettent de... En disant que c'est pas possible, il va se passer quelque chose, l'avion va être détourné, c'est un piège, il va faire demi-tour et partir vers les États, va savoir quoi. De Bangkok, il est parti ensuite aux îles Mariannes, qui appartiennent aux États-Unis, un territoire des États-Unis. Alors certains ont dit a posteriori que c'est le seul île que les Américains ont trouvé où il y avait à la fois un juge fédéral et pas de bureau de la CIA. Et là, l'avion a atterri, je ne sais même pas s'il a coupé les moteurs. Il est rentré dans un tribunal où le journaliste local était en train de faire le scoop de sa vie, les îles Mariannes, en train de faire un reportage en direct devant le tribunal. Lui qui avait apparemment plus l'habitude de décrire un nouveau passage piéton qui venait d'être fabriqué, un truc comme ça. Je veux dire, ça ne peut pas être un coin où il se passe beaucoup de choses. Et plus tard, on a eu quelqu'un à pirater l'audio de tout l'audience. Je peux dire que c'était bon enfant, réglé comme du papier à musique. Tout était écrit d'avance.
Tout était arrangé.
Tout était arrangé.
Du coup, ta surprise, on s'attendait à ce que les États-Unis allaient vraiment le prendre, l'enfermer à Guantanamo, lui terminer sa vie. Et tout d'un coup, il est libre. Je voudrais insister. Pourquoi il a été libéré, ou plutôt, qui l'a libéré et contre qui?
Alors, je n'ai pas de réponse. C'est ça qui est un peu frustrant. D'abord, la question que je me pose, c'est pourquoi ça a été organisé comme une opération commando? Pour moi, c'est l'équivalent d'une opération commando. Lundi, on trouve l'avion, mardi, tu pars.
Oui, je comprends bien, mais qui aux États-Unis a décidé de le libérer?
Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai raconté dans toutes mes conférences. Ma version à moi, c'était, je disais aux gens, selon moi, on n'a aucune chance de le sauver. Je faisais les conférences pour pas qu'on l'oublie. Que selon moi, il a été extradé, enfermé dans un trou noir, qu'il fallait faire une croix dessus. Que mon objectif, c'était simplement qu'il ne parte pas dans l'inconnu, dans la nuit, qu'il y ait des gens qui soient au courant, qu'il a existé, qu'il allait partir. Mais, je rajoutais, on sentait quand même que ça tenait à pas grand-chose. Quand on a l'oreille collée au sol, quand on suit une affaire, il y a des choses qu'on sent. Et une des choses qu'on pressentait, alors c'est facile à dire a posteriori, mais bon, c'est qu'il y avait des forces au sein de l'administration américaine qui étaient en conflit sur cette affaire, qu'il y avait des pour et des contre. Il y a des gens qui voulaient sa peau, littéralement, et il y a des gens qui pensaient que c'était allé trop loin et que ça portait plus préjudice aux États-Unis et que ça pouvait être encore pire si l'affaire était importée aux États-Unis et que d'un seul coup, la presse américaine se réveillait en disant « Voilà une affaire de liberté de la presse, voilà un journaliste qui est attaqué par une loi sur l'espionnage, une première dans l'histoire des États-Unis ». Ça pouvait devenir chaud.
Le déballage aurait fait du tort.
Si déballage, il y a eu. On savait que, par exemple, des avocats, les plus grands avocats américains, s'étaient déjà constitués en poule pour dire qu'ils allaient défendre Assange. On savait que les plus grands podcasteurs américains, conservateurs comme progressistes, dans la perspective de son extradition, étaient déjà en train de l'annoncer, qu'ils allaient en parler, que c'était un scandale. Et on connaît leur pouvoir aujourd'hui de ces podcasteurs-là. Donc il y avait un terreau apparemment prêt pour une catastrophe annoncée, catastrophe relations publiques.
J'insiste avec ma question, qui des noms?
Alors on n'a pas, on ne sait pas.
Biden, il était en campagne électorale, il avait quand même un petit...
Alors c'est le département de justice qui a signé l'accord, donc forcément c'est venu de très haut. Qui a été le facteur déterminant, ça reste à écrire, j'ai aucun nom, j'ai aucune idée de qui a pu faire ça. Mais je reste sur cette idée qu'une partie de l'administration américaine, d'où l'organisation d'une opération commando, l'a fait... à réaliser cette opération contre une autre partie de l'administration américaine le plus vite possible pour pas qu'ils puissent le saboter. D'où le choix des îles Mariannes, parce qu'il fallait voir les tweets furibards le lendemain qui ont été publiés par des néoconservateurs, notamment Mike Pompeo, c'est un scandale, comment ça a pu se faire, etc., etc.
Est-ce que ce serait lié alors à différentes tendances dans la politique internationale des États-Unis?
Je pense que c'était vraiment interne. L'image de marque... Les néoconservateurs voulaient sa peau, c'est clair, n'était précis, principalement.
Mais
les
Trump, à un moment donné, il a fait des phrases sympas.
Il a fait des phrases sympas, puis il a aussi dit plus tard qu'il ne connaissait rien à l'affaire Assange. Comme il est souvent dans ses contradictions, Trump, on ne va pas lui en vouloir, il est dans le personnage. Donc, par contre, on a eu des déclarations, par exemple, de son fils, quelques mois avant la libération, dans un podcast de Tim Pool, qui est un conservateur américain pour Trump, etc., qu'il a interpellé assez sèchement sur l'affaire Assange. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce qu'il va être pardonné ? Comment ça se fait qu'il est en prison, etc. Et le fils de Trump, Donald Trump Jr., donc, dit, en substance et presque mot à mot, si vous m'aviez posé cette question il y a quelque temps, j'aurais dit qu'il fallait l'extrader, que c'était un traître. Mais maintenant que je connais mieux l'affaire, je pense qu'il faut qu'il soit libéré. C'est ce qu'on fait de plus proche de Trump, hein, son fils, etc. Donc, va savoir. J'ai plus grand-chose à dire, sinon qu'il y avait des signes qu'il y allait avoir une sorte de résistance, que ce n'était pas certain du tout, eu égard aux enjeux et à la haine qu'il avait provoquée chez les services de renseignement, eu égard au poids qu'ils ont dans le deep state, l'état profond. On pouvait imaginer très bien que ça irait dans un sens ou dans l'autre. Et là, en l'occurrence, c'est allé dans le bon sens. Ce qui est aussi étonnant, c'est l'accord qui a été passé, le contenu de l'accord.
Oui, j'allais le dire justement. C'est une victoire totale, pas totale ? Quel est le pour et le contre ?
Pour moi, c'est une victoire totale de la part d'Assange. C'était ce qu'il pouvait espérer de mieux. À part une libération et une défaite en race campagne que les États-Unis n'auraient jamais acceptée. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit, tel que je le perçois, c'est « s'il te plaît, est-ce que tu peux avouer ta culpabilité dans l'accusation suivante, conspiration pour obtenir des documents classifiés et les publier ?» En gros, la description de l'ordre de mission de Wikileaks, quoi. Chose à quoi Julian Assange a avoué. D'ailleurs, dans la transcription audio de son procès, il dit « j'avoue avoir conspiré pour obtenir des documents classifiés pour faire un travail de journaliste ». Donc il a glissé.
Pour faire un travail de journaliste.
Il l'a glissé, il a dit ça. La juge a eu un petit rire étouffé, je crois, comprenant sa manœuvre, et puis ça a continué, mais très bon enfant, je veux dire. Le reste de l'accord, c'est, et ça c'est super important, les États-Unis s'engagent à ne poursuivre aucun autre membre de Wikileaks. C'est une des épées de Damoclès qui pendait sur la tête de tous les autres membres de Wikileaks. Deuxièmement, les États-Unis s'engageaient à ne pas poursuivre Wikileaks pour les autres publications postérieures à celles pour lesquelles il était officiellement poursuivi, c'est-à-dire des publications de 2010 sur l'Afghanistan et l'Irak. Mais dans le plan qui avait été révélé et fuité vers Wikileaks, établi par la société privée Stratfor, le plan potentiel était de le poursuivre jusqu'au bout de la terre, jusqu'en enfer s'il le fallait, en lui imposant des poursuites judiciaires les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ils auraient perdu 7 affaires d'extradition pour les publications de 2010. Ils allaient recommencer pour les publications de 2011.
La persécution sans fin.
Sans fin. Donc ils effacent tout. Ils effacent tout. Et troisième événement, troisième condition, c'est qu'ils prennent un avion privé. C'est bizarre. Et une autre condition favorable à Assange, c'est qu'il ne fait pas l'objet, comme c'est souvent le cas, d'un gag order, on appelle ça en anglais, d'un bâillon, ordre de bâillon, c'est-à-dire l'interdiction d'en parler. Même pas ça. Donc en fait, Julian Assange, il a sauvé en fait toute l'équipe de Wikileaks, pas que lui-même, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite. Il a sauvegardé l'activité potentielle de Wikileaks. Wikileaks peut continuer à travailler. Et il peut continuer à en parler. Il a finalement avoué coupable au métier et l'ordre de mission de Wikileaks. Bon, OK. À part ça, Wikileaks aurait, maintenant on ne sait pas de quoi il s'agit, puisqu'on ne connaît pas le contenu, aurait détruit tous les documents qu'il n'avait pas encore publiés. C'était une des conditions sine qua non pour sa libération. Bien qu'on ne sache pas si on parle des documents concernant le procès 2010 ou si c'était tout ce que Wikileaks avait en archive. Sachant que de toute façon, il y a des sauvegardes qui ont été distribuées de partout et que ces documents en question existent. S'ils existent, ils existent déjà en copie.
Imaginons que nous vivions une démocratie policière.
T'exagères ?
Ouais.
Qu'il y ait des caméras partout et de la biométrie dans l'air. T'exagères. Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue, au cas où on soit trop têtu.
Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime.
Ah, quand même.
Hé, hey, monsieur l'agent.
Mademoiselle.
On fait que chanter le passé avec des airs de barricade. Dans le genre, faut pas oublier ce souvenir des camarades. Dans le style un peu culturel, rien à redire, c'est artistique.
En plus, les comédiennes sont belles.
Eh, hey, y a un homme derrière chaque flic.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Faire arrêter en entonnant « Casse-toi, pauvre con !» Et ce serait nous fourvoyer. C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Chasseur d'immigrés pour défendre la République. On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics. Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics. C'est une drôle de destinée si c'est glamour.
C'est pas d'éthique.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Les lycéens qui sont matraqués.
Et Joachim qui perd un œil.
Oh, le taser qui peut tuer.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
La situation difficile de prévoir l'avenir. Après tout, ce n'est qu'une chanson. On est là pour vous divertir.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter.
Radio Campus.
Dans des circonstances que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux pas répéter.
106,6.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'affaire. Pour moi, c'est une victoire en race campagne de Julian Assange par rapport à le sort qui lui était promis. Il s'en sort très bien, eu égard aux conditions et aux circonstances, après avoir beaucoup, beaucoup souffert.
Oui, quand même, hein, il faut quand même dire, au point de vue... D'ailleurs, les responsables des commissions d'ONU sur la torture disent que c'est vraiment une torture. On a essayé de le rendre fou, on a vraiment essayé de le briser.
Le rapporteur, ex-rapporteur sur les droits, le traitement, la torture des Nations Unies. Alors, un rapporteur spécial des Nations Unies, c'est un peu comme un consultant pour une entreprise. C'est quelqu'un qui a un budget, qui a une équipe et qui est mandaté par les 197 ou quelques pays de l'ONU. Pour des sujets particuliers. Alors, il y a des rapporteurs spéciaux sur la faim, sur le droit des femmes. Et lui, donc Nils Melzer, a fait une enquête, a finalement accepté de s'intéresser à ce cas que lui-même dit ne l'intéressait pas, tellement c'est lui qui le dit qu'il avait été marqué par la propagande des médias et qu'il a découvert quelque chose.
La propagande des médias. Alors, il y a quand même un point à soulever. Assange a fait un travail de journaliste. Il a fait des révélations sur les crimes de guerre des États-Unis, des gens très haut placés. Ça n'intéressait pas les médias ?
Ça les a eu intéressés. Ça les a très intéressés d'ailleurs au début, quand Wikileaks est arrivé sur le marché, quand Wikileaks s'est fait vraiment connaître en 2010, quand Wikileaks a explosé sur la scène internationale. On parlait que de ça à l'époque. Hein. Wikileaks, Julian Assange a fait la couverture de Time Magazine, il ne faut pas oublier. L'homme de l'année pour le journal Le Monde. Et avec quelle facilité ensuite ils ont réussi quand même à le faire oublier. Il y a des gens aujourd'hui, ah oui, qui c'est ce Julian Assange ? Ah oui, Wikileaks, je me souviens. Où est-ce qu'il est actuellement ? Il est toujours en prison à l'ambassade du Brésil ou je ne sais pas quoi. J'ai l'air... Là, ils ont... L'objectif des médias était de le faire oublier. Après en avoir profité et fait leur chou gras sur les révélations de Wikileaks, l'objectif clair, net et précis de la campagne, c'était le mettre dans un trou noir, déjà dans un oubli.
Pourquoi ? Ça dérange ?
Le modèle de Wikileaks, sans rentrer dans le détail, qui consistait à recevoir de la part des lanceurs d'alerte des documents dénonçant des crimes, de deuxièmement vérifier que ces documents étaient authentiques avec une équipe de journalistes, donc un vrai travail de journalisme, et de s'engager moralement à les publier, quelles que soient les personnes mises en cause, faisait que, deux points, ouvrez les guillemets, et si vous n'avez qu'une phrase à retenir, s'il vous plaît, retenez celle-là, Wikileaks constituait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Le danger que représentait Wikileaks était très, très, très clairement perçu par ceux d'en face. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis avaient constitué une équipe de 120 agents du FBI et de tous les services de renseignement américains. On dit que c'est plus que pour la chasse de Ben Laden, pour abattre Wikileaks et Julian Assange. En face, l'affaire a été prise très, très au sérieux. Et a été menée rondement avec beaucoup de professionnalisme de leur part. Il y a eu une belle résistance de la part de Julian Assange, mais ils ont fini quand même par l'attraper, avec la complicité quand même de cinq nations. Le rapporteur Nils Melzer, il dit que c'est la première fois qu'il voit cinq pays s'acharner sur un seul homme. Les cinq pays étant la Suède, qui commence, l'Angleterre, qui continue, les États-Unis toujours en embuscade, il y a l'Australie qui... Parce que Julian Assange est australien, mais l'Australie ne fait pas grand-chose pour sauver son citoyen. Et puis il y a évidemment l'Équateur, qui après lui avoir accordé l'asile, change de président, change de politique, et finit un jour par autoriser la police de rentrer dans l'ambassade et littéralement de les kidnapper.
Est-il exact que des justices, je pense à la Grande-Bretagne, la Suède, ont conspiré pour employer un vilain mot pour que Assange soit enfermé longtemps ?
C'est peut-être un vilain mot, mais c'est le mot qui convient. Nous savons. Parce qu'il y a eu des fuites de courriels obtenues soit par des fuites, soit par des actions en justice, par notamment la journaliste italienne Stefania Maurizi, qui fait un travail qui continue aujourd'hui, qui prouve qu'il y a eu complot, conspiration entre les services de procureurs suédois, les services de procureurs britanniques, pour mener cette affaire de façon complètement irrégulière et d'en faire une affaire politique. Ce n'est même plus discutable. Ce qui est discutable aujourd'hui et qui se discute, c'est que sont devenus des milliers de courriers qui ont été, par inadvertance, supprimés du côté suédois. Et aussi, on vient de l'apprendre, il y a un mois ou deux, supprimés du côté britannique. Oups,
quel
oups,
hasard.
Oups. Il y a un juge britannique récemment qui a rendu un jugement en ordonnant la publication de ces emails. Mais le service des procureurs de la reine, comme on disait à l'époque, ou de la couronne, ont dit qu'ils les avaient supprimés, qu'il n'y avait plus moyen de les récupérer. Il s'agissait, Nils Melzer, je reviens au rapporteur simplement, dans son enquête exhaustive, il a publié un livre en anglais, L'affaire Assange, chez les éditions critiques, ça se lit comme un roman policier. Il se trouve qu'il parle le suédois, donc il a consulté les pièces originales de la police suédoise, etc., etc., de toute cette affaire fausse accusation de viol, etc. Il a relevé, c'est lui qui le dit, plus de 50 violations des droits de Julian Assange. Constitue une sorte de record. Autre point important, je pense, sans rentrer dans le détail, étant le rapporteur, comme j'ai dit, le représentant quand même des Nations Unies, il est généralement traité avec certains égards ou respect. Même dans les régimes dictatoriaux, on lui fait l'honneur de répondre à ses interpellations. Or, dans cette affaire-ci, il a reçu un mur de silence et de mépris de la part de la Suède et de la Grande-Bretagne notamment. Il n'avait jamais vu un traitement pareil. C'est-à-dire que c'était C'était assez, allé assez loin.
C'est vrai que, pour avoir un peu suivi l'affaire, je me souviens que la première juge britannique qui devait décider de son sort et qui a été très sévère envers lui, son mari fricotait avec les industries de l'armement, donc elle aurait dû se désister.
Son mari et son fils.
Voilà.
Donc oui, elle aurait dû se désister pour conflit d'intérêts, mais c'était quelqu'un qui était habitué à ne pas se désister dans les conflits d'intérêts. Elle avait déjà eu une affaire, l'affaire Uber, qu'elle devait juger. Son mari était un grand actionnaire de Uber. Il a fallu une campagne de presse américaine, britannique pardon, pour qu'elle se désiste enfin. Mais dans l'affaire Assange, elle ne l'a jamais vraiment fait.
Disons un peu deux mots des bonnes nouvelles, parce que dans ces temps de pessimisme, de fatalisme, de sentiment d'impuissance, il y a quand même eu, ça a joué un rôle, une mobilisation internationale par tous des petits comités dans une série de pays. Ça a fait en sorte qu'on ne pouvait pas oublier l'affaire, que de plus en plus de gens en parlaient et qu'il y avait quand même un malaise, même dans les grands médias, il y avait un malaise parce que les règles n'étaient pas respectées.
Alors, selon les pays, etc., il y a eu quand même, oui. J'ai parlé de la semaine qui a précédé sa libération. Je peux dire aussi que la semaine qui a précédé la libération, nous étions en discussion avec la mairie de Paris pour lui accorder le titre de citoyen d'honneur de la ville. C'était pas fait, mais disons qu'on était arrivé assez haut dans les conversations. En Italie, des dizaines de villes, etc. Je reviens en arrière en disant que le paradoxe, situation paradoxale, c'est qu'il était soutenu par pratiquement tout ce qu'on peut imaginer comme organisation de défense des droits de l'homme. En tout cas, tous ceux que je connaissais et même tous ceux que je ne connaissais pas. Défendu par toutes les organisations de presse, la Fédération internationale de journalistes, le Syndicat national de journalistes, le Syndicat de journalistes britanniques, australiens, etc. Défendu par des milliers de parlementaires à travers le monde, par les organisations de défense des droits de l'homme, par les organisations de l'ONU, par le pape, par sept, peut-être plus, présidents en exercice ou ex-présidents, notamment d'Amérique latine, tous d'Amérique latine. L'appui dont bénéficiait Assange, le Pen Club, les associations de barreaux d'avocats, de je ne sais pas combien de barreaux, d'écoles de journalisme, etc. Tous ces gens-là, d'ailleurs, ont fini aussi par apprendre qu'il ne suffisait pas d'être, se déclarer solidaire avec Assange, que les médias allaient quand même faire leur mur de briques, etc. Donc il y avait un paradoxe entre une situation sur le papier qui était presque idéale et les grands médias, on va revenir sur eux, qui faisaient barrage, qui traitait l'affaire comme un simple fait divers, qui s'obstinait à le traiter comme un fait divers, et qui s'obstinait pour certains à perpétuer les fausses rumeurs ou la fausse information. Et il y en a certains qui étaient très proactifs. Il ne faut pas oublier, par exemple, que The Guardian, qui était partenaire de Wikileaks, a publié carrément des fake news dans son article et qu'ils n'ont jamais rétracté, comme on dit, c'est un anglicisme peut-être, mais ils n'ont jamais retiré l'article qu'ils savaient était complètement faux.
Tu disais que les groupes de solidarité européenne s'étaient réunis, ils se réunissent encore?
Alors, oui, parce que d'abord, c'est des amis, à force. Mm-hmm. Quand on fait ça pendant toutes les semaines, on se réunissait pendant des années, toutes les semaines, donc on finissait par se connaître, on se retrouvait dans les manifestations devant la prison de Belmarsh.
Et ils se réunissent encore parce que ça reste actuel.
Ils se réunissent encore moins fréquemment, mais pour nous, le combat n'est pas terminé. Le combat de défense de la liberté de la presse, du droit de savoir, n'est pas terminé du tout. Assange, pour l'instant, est sauvé. Wikileaks est sauvé. Mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg de l'information pour lequel il faut combattre. Alors, un peu rodé sur ce sujet-là, on s'est dit tous, on a une compétence, pourquoi ne pas continuer pour servir cette cause, le droit de savoir.
Voilà un sujet très intéressant. A-t-on encore besoin d'Assange? Avec ce qui se passe dans le monde, certainement ça va être traité dans Forum. Merci Victor.
Merci à toi.
Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation. Même si j'ai grandi au milieu des rues, ayant derrière moi l'état de flic au cul, je me suis vu et je suis m'engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes.
L'enfance est passée. Depuis combien d'amis sont tombés, ils ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leur fils par la mort fauchée.
Pendant 7 jours, sous le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou, de Satan à la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel.
J'ai vu les feuilles mortes, des arbres en automne, tourner à la couleur où je vis comme le fleuve de sang qui encore se répand. Prends sa source en Afrique et s'étend en 4 vents.
La note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang. T'as la mémoire en cours, où tu fis tes souvenirs à une idéologie et volontairement tu te la raccourcis.
Alors dans ce cas, tu es mon ennemi, hein. Viens ici, si ma religion m'enseigne me de paix, la paix ne compte plus si je me sens blessé.
Tu te souviendras de la couleur du tambour rouge et tu te soumettras, pas d'accord, bouge.
Toi le frère noir, aveugle et sans attention, rouge est la couleur de la révolution.
A whole lot of talk about the red, black and green. Talk about the red, black and green.
La rue, combien d'enfants a-t-elle emporté en a-t-elle eu et abattu, je ne sais plus,
le trottoir.
Si sombre quand vient le soir, où la mémoire n'a plus d'espoir, semble trop
noir comme la couleur de la peau de mon peuple. Enchaîné par l'esclavage mental, car l'ignorance est telle que le mal elle emporte. Pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes.
Allah Akbar, protège-nous des ténèbres absolues qui peut voir. Toi qui es bon, c'est pas trop tard, n'étant pas parfait, j'essaie de faire le même. Je tenterai d'être juste et ça c'est mon problème.
Dominer ma rage, être équitable et sage. Tourner la page sur ceux qui se plaisent au bavardage. Plus de xénophobie, ni de politique. Rien que l'alliance des poètes afro-asiatiques.
Vois-tu ce noir au fond de mes yeux? 40 frères à mes côtés et ils parlent pour eux.
Notre pouvoir est tel qu'ici les paroles de toute prison. Noir est la couleur de l'unification.
A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah.
Blesse le stress, progresse sans cesse oppressé, presse et laisse l'esprit aux promesses. Pourquoi devrais-je avoir confiance en croulant, déclarant des conneries au nom du président?
C'est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa? La terre créée par Dieu n'appartient pas, elle est à toi ou à moi. Ou quiconque s'envoie le droit, l'argent est roi. Passe avant tout encore une fois.
C'est une honte de voir les dirigeants à l'assemblée crier, pleurer comme des enfants. Tout est faux, tout pour le dos. Et j'entends seul clamer du haut de mon micro.
As-tu vu le père, non pas le père père, les peines souriantes de la terre mère. Enfants déracinés, on a participé à construire le grand pays de la liberté.
Les récompenses ont été pour les fils de Cham, le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam.
Right. Plus de mensonges à l'avenir, faites attention, car père est la couleur de la libération.
It began.
My brothers red, black, green. My sisters red, black, green. Mes frères red, black, green. Mes sœurs étalées la couleur. Rouge pour les pleurs, noir pour la douleur, vert pour la sueur. Que quelqu'un se rappelle que l'acier déchaîne n'a jamais quitté les mains et l'esprit de mon peuple que j'aime. Quand on enseigne à vénérer l'armée et apprendre à tuer pêle-mêle, tirer pour la compétition, la domination.
Premier de tous les pas vers la colonisation.
X fixe, le but de nos mix, 10-4-1, évite l'avènement, les rixes, poète, terroriste, quelquefois soloiste, étudie les causes à effet, t'as un économiste, beaucoup de gens étudient comme la plupart des fois, même si sont d'arrassants, lorsqu'ils viennent de toutes parts, on avertit en demandant si IAM a une devise.
Xénophobes et racistes iront aux jeunes Elvis.
Envers la punition, qu'on crie à l'unisson, doit arriver comme un calme plat de nos visions, systématiquement, impérialement, automatique, IAM souverain, autonome, asiatic. Comme a dit King Reigns, à qui je dis salam en les mains, nous sommes âmes de l'islam. Et venons en paix avec trois couleurs d'émancipation.
Rouge, noir, vert, la seule solution.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les
les 35 heures à l'hôpital ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas, qu'on n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Soleil, préfère les lions. Pour les taureaux, c'est comme pour les gémeaux. Niveau boulot, L'union de la gauche. L'union de la gauche est nécessaire. L'union est indispensable. L'union de la gauche. L'union de la gauche. L'union de la gauche.
C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays. C'est pour la magie.
S'ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français, ils ont donc vocation à repartir chez eux. Quand,
donc à être expulsés. Voilà,
et donc, oui, à être accompagnés chez eux.
C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays. C'est pour la magie.
64, non, 65. Ah mais non, 67. Alors je vous le dis, présidente, je sanctuariserai à 62 ans l'âge de départ à la retraite.
C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Parce que c'est notre projet.
Triste Bahia, oh quão de semelhante. Triste Bahia, oh quão de semelhante. Estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vejo eu já, tu a me abundante. Triste Bahia, ó quão de semelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Triste, ó quão de semelhante.